Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h.
Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour le numéro 944 d'Invino depuis la création de l'émission en 2004. Comme vous le savez, nous sommes en public et délocalisés chez le caviste Nicolas à Paris, au 31 Place de la Madeleine. Je rappelle que vous écoutez Invino Sud Radio à Marseille, par exemple, sur le 95.1. Ça fait plaisir à Philippe Orbach, et comme vous vous retrouvez sur notre page Facebook Invino. Aujourd'hui, un menu qui prêche, comme d'habitude, la consommation modérée et responsable avec le domaine Giraud, situé à Buée, au cœur du Sancerrois. Et puis le Vino Quiz pour gagner le livre Œnotourisme et spiritueux en France et dans le monde aux éditions Erol. On jouera sur invinoradio.tv. Bonjour Philippe Orbach, vous allez bien?
Bonjour, elle est partie très bien.
Les vacances, bien passées. Alors, on vous a aperçu du côté de Saint-Tropez, là, tout début août.
C'est vrai.
Et après,
nous
vous étions
ensemble, d'ailleurs.
Bah ouais, on était ensemble.
Une belle émission là-bas à Saint-Tropez. Après, je suis parti effectivement dans les Alpes, dans les Hautes-Alpes précisément, dans le Briançonnais, où il y a eu à peu près 30% d'activité en plus. Donc, comme quoi, il y a quand même de bonnes nouvelles à cette rentrée.
Bravo.
Voilà, voilà. Et donc, voilà. Et puis après, j'ai fait également un tour dans la vallée du Rhône, et notamment sur Châteauneuf, où j'y ai quelques affinités.
Quelques amours et intérêts.
Exactement. Voilà. Et puis, pour finir, il y a quelques jours, dans la vallée de la Loire, à travers la découverte non seulement des châteaux, mais également de ces beaux vignobles.
Notamment un petit restaurant sympa, 2-3 macarons, 2 macarons, c'est ça ?
2 macarons, mon livre. Ouais. Salut Christophe Hay et toute son équipe, parce qu'ils ont été vraiment formidables. C'est une belle image de la gastronomie, notamment de la Loire, mais au-delà de la Loire, bien sûr.
Alors, on reste dans l'excellence, Philippe, pour débuter ce Invino Sud Radio spécial rentrée, avec Nicolas Irissou, le copropriétaire du domaine du moulin Irissou, situé à Gaillac. Bonjour Nicolas.
Bonjour à tous.
Avant de parler de vin, parce que c'est quand même Invino Sud Radio, un mot sur vos trois autres passions avouables, hein, on va se limiter aux avouables, la Corse, les faucons et le hand, racontez-nous.
La Corse, j'en reviens juste, donc on avait tout préparé pour les vendanges pour que je puisse pouvoir partir.
Et vous étiez où en Corse ?
Ah, mon cœur balance entre le centre Corse et le sud Corse, donc on va dire entre Corté et puis...
Et Bonifacio
et puis, 30 km de Bonifacio.
Ah oui. Est-ce que vous avez goûté un bon muscat corse du Cap Corse? C'est bon ça, non?
Ouais, j'aime bien le patrimoine et après aussi les vins de Pontelletch, des vins d'altitude là qui me plaisent beaucoup.
Ouais, Philippe Orbach, hein, vous connaissez aussi bien l'île de Beauté et côté vin, c'est sympa.
Bactus, hein. Oui,
est gâté. Quoi.
Oui, exactement. C'est une île qui est bénie des dieux depuis longtemps et qui a bénéficié de différentes invasions. Ça a été un peu terrible au moment où ça s'est passé, mais par contre, il y a une vraie culture qui s'est forgée. Et les vins reflètent justement ce tempérament corse. Ce sont des vins généreux, des vins qui restent élégants, des vins avec une certaine noblesse. Et beaucoup de tempéraments, les blancs de patrimonio notamment, c'est la poche calcaire de l'île, hein, c'est magnifique, les granits d'Ajaccio, effectivement les vins d'altitude, et Nicolas fait bien de le souligner, l'altitude compense la latitude, donc ça permet de trouver une acidité naturelle dans le raisin qui ensuite se transmet dans le vin.
Nicolas, à part la Corse, les faucons, donc vous avez un élevage, c'est ça? Avec un aigle chouchou?
Ouais, je suis fauconnier et donc certains prennent des fusils, mais moi j'ai pas de fusil, j'ai un aigle pour chasser les sangliers, les chevreuils.
Comment il s'appelle cet aigle?
Et il s'appelle Cinto.
Ah, ça me rappelle une de vos cuvées, enfin, on en parlera tout à l'heure. Quoi. Et alors le hand, vous avez joué à un haut niveau, notamment à Libourne?
Ouais, je jouais au National de Handball et puis je me rappellerai toujours d'une parole de mon ex-entraîneur, vous connaissez Claude Onesta.
Bien sûr.
Et à l'époque, il me disait, quand je l'ai revu 10 ans après, il me dit, tu sais Nicolas, à 30 ans, le hand, c'est quasiment fini. À 30 ans, vigneron, tu commences.
Ah, et c'est ça, une jolie.
Ça m'a toujours dicté dans ma vie de tous les jours après.
Ouais, de la grande sagesse pour ce bel épicurier en tout cas. Alors racontez-nous, il paraît qu'avant d'arriver donc, du côté de Gaillac, vous avez passé quelques mois très sympas en Californienne. Donc est-ce que les Californiennes sont jolies? Allô, on revient au faucon quoi.
Non, pas du tout, parce que je pense que
vous étiez célibataire à l'époque.
J'étais célibataire, mais voilà. Alerte à Malibu, à la télé, c'est pas vrai. Quoi. Donc il faut tout remettre à sa place. Bon. Je pense que c'est mieux du côté de New York que du côté de la Californie.
Bon, alors, allez, vous avez rejoint le domaine familial. Donc, un mot sur l'historique. Hein. Tout a débuté, si j'ai bien compris, en 1827 avec Pierre.
Ouais, non, je suis la sixième génération. J'ai la chance d'avoir encore la cinquième qui est à la retraite, mais vous savez, les agriculteurs, c'est la retraite très active, donc il est toujours là à côté de moi. Par contre, depuis 2002, il m'a donné les clés et je fais ce que je veux. Donc c'est vraiment à noter parce que ce n'est pas tout le temps le cas dans les exploitations familiales.
Donc ça veut dire que vous avez réellement, votre papa, passé le témoin en disant « Écoute, Nicolas, tu te débrouilles, je t'aime, que ça marche ou pas ?»
Mais il a considéré qu'une vigne, c'était pour 50 ans. Donc, comme sur les 38 hectares, on en a replanté 33 depuis 2002, mais c'était pas les, il ne les plantait pas pour lui, il les plantait pour moi. Donc, c'était à moi de décider ce que je voulais faire.
Ouais. Aujourd'hui, vous dites que vous avez combien d'hectares au total alors ?
Entre 38 et 40, ça dépend des plantiers. C'est un côté plantier,
38 et 40. Alors, en 2002, vous avez créé votre cuvée Florentin à 100% brocol. Philippe Forbach, qu'est-ce que c'est que ce cépage brocol ? Le nom est sympa.
Oui, c'est un cépage local qui est fort intéressant, qui donne des vins avec beaucoup de caractère également, c'est un cépage rouge, et qui porte d'autres noms d'ailleurs, Nicolas, ce brocol. Vous l'appelez toujours brocol ou vous l'appelez...
Nous, ici à Gaillac, on ne parle que de brocol.
Oui.
Mais bon, le nom, entre guillemets, en pélographique, dans les livres, c'est le fer Cervadou. Et après, si vous allez du côté de Madiran, il s'appelle le Pininque, et si vous allez du côté de Marciac, et il s'appelle le Mansois.
Mais c'est quand même dingue, Philippe Forbach. Pour le même raisin, si on comprend bien, pour le même raisin, il y a des noms différents.
Mais oui,
quoi.
Le fer Cervadou.
Et après, on va dire que c'est facile, le vin.
Bah, c'est facile si on s'y intéresse, comme toujours. Et si on gratte un peu, on s'aperçoit qu'il y a effectivement beaucoup de nuances.
Si on écoute une vidéo sur une radio,
oui, exactement.
Hein. Nicolas, racontez-nous, en 2005, vous avez également planté du tanat.
Ouais, et j'ai pris aussi le pari. Bon, le tanat, c'est un cépage que j'adore. Et j'adore, mais j'ai aussi pris le pari de le planter à 7500 hectares.
D'accord. Ce qui est beaucoup, pas beaucoup, on ne se rend pas bien compte pour les amateurs. Ce qui est plutôt beaucoup.
Mais la densité gaillacoise est de 4005.
D'accord.
Donc on va dire que c'est une exception sur Gaillac, quoi.
Et alors le fait de planter différemment, là, ça apporte quoi en théorie ? C'est-à-dire que la vigne a plus d'espace. Quel est le plus pour le vin in fine, en théorie ?
En tout cas, sur les rouges, on a une plus belle concentration des grappes, une plus grosse concurrence, mais on pourrait avoir peur de l'eau, puisqu'on a une carence en eau de plus en plus, mais c'est des racines qui descendent, donc en fait, on n'a pas de problème de vigueur.
D'accord.
Et par contre, sur les rouges, à la dégustation, chaque fois, ces vignes ressortent devant, quoi.
Donc une vino veritas, c'est meilleur, quoi, on va dire, quoi.
Tous les grands crus sont plantés à haute densité. Hein.
Donc, Philippe Forbach, vous confirmez les propos, la densité est importante pour la qualité in fine du vin ?
Oui, bien entendu, tous les grands vignobles ont une densité de plantation relativement importante. On peut aller même jusqu'à, pour certains cépages et dans certains types de sols, jusqu'à 10 000 pieds à l'hectare. Alors il y a des endroits où c'est historique, par exemple dans le Beaujolais, on a été planté beaucoup, 1 mètre sur 1 mètre, c'est-à-dire effectivement sur une surface d'un hectare, 10 000 pieds. La tendance sur les vignes a des rendements plus forts, et pour économiser à la fois le plantier mais également l'entretien, c'est de planter moins. Et donc dans les décrets d'appellation, il y a une densité de plantation à minimum. Mais rien n'empêche effectivement, et Nicolas est un bon exemple, de planter avec une densité plus forte pour gagner en qualité.
Nicolas, on continue la balade grâce à vous au pays des beaux cépages de ce Gaillacois. La petite Syrah, elle vous sied ?
Alors ça c'est tout nouveau, ça a été planté il y a 2 ans. Donc j'ai repris l'exploitation du frère de mon grand-père, donc toujours la famille, sur une superbe argilo-calcaire. Et en fait, quand j'ai travaillé en Californie, j'avais déjà travaillé avec ce cépage-là, qui s'appelle le Durif en fait. Et qui est un cépage français et qui vient du Dauphiné. Et étant moi assez souvent aux États-Unis, parce que je vends pas mal de vin aux États-Unis, mais je l'ai revu et j'ai dit purée, il faut le faire, quoi. Il faut le relancer.
Et ça, c'est récent ?
Ah oui, mais je crois que le nombre d'hectares en France est de 3.
Ah oui, c'est quand même, oui.
Et j'en ai 1,5 hectare, et là, j'ai
accroché en 50% de la production française, voilà, Nicolas. Ouais. Cocorico, quoi. Vous n'avez quand même pas planté du chenin chez vous, là. Est-ce que c'est le pays du chenin également ?
Je ne serais pas capable de faire ça si j'en ai planté, mais c'est pareil. Non, mais en fait, dans la vie, je pense que je suis très traditionnel, c'est-à-dire que j'adore mon mosaïque, j'adore mon brocol. Mais après, de l'autre côté, vigneron, c'est tellement de passion, c'est tellement de choses qu'il faut se faire plaisir aussi. Et du coup, quand j'ai recréé ce domaine il y a 2 ans, quand j'ai retravaillé dessus, qui s'appelle le Clos Hérissou, j'ai dit on va faire autrement, on va faire ce qu'on aime. Et donc, j'ai fait de la petite Syrah en rouge et du Chenin en blanc. Mais il y a aussi 200 oliviers, il y a aussi des chênes truffiers, il y a 1 kilomètre de haies.
Bon, vous êtes heureux chez vous, Nicolas, ça se sent là, c'est le 100% bonheur. Hein.
Disons qu'à 40 ans, si on n'a pas des projets,
c'est
on est
ça,
foutu,
faut
quoi.
S'éclater. Quoi. Le millésime 2020, là, il va être comment ? Et merveilleux, comme chaque année, Dixit, tous les vignerons du monde entier ou pas ?
Honnêtement, on avait peur de ces 2 mois, hein, parce qu'ils ont été assez secs. Mais comme le printemps a été assez pluvieux et qu'on est sur pas mal de sol argileux, on a quand même des réserves hydriques. Et comme nous, on travaille les sols et que les racines sont très en profondeur, on a des rendements en jus qui sont vraiment très corrects.
Qui c'est pas mal, quoi. Philippe Fabrac, ouais, est-ce que les gaillacs, notamment en rouge, peuvent être considérés comme des vins de garde ou au contraire des vins à déguster assez rapidement?
Alors, un gaillac, et on a un bon exemple avec les explications de Nicolas Hérissou, il y a toutes sortes de... Il y a beaucoup de cépages différents, il y a toutes sortes de vins. On peut faire des rouges, légers, tendres, avec, on n'a pas cité trop, mais le gamay, par exemple, rentre dans l'appellation.
On l'a vendangé aujourd'hui, ouais.
Voilà, donc ça donne des vins plutôt frais, qu'on peut quasiment goûter en primeur. Et puis, effectivement, avec le brocol, voire avec d'autres cépages que vous avez évoqués, la petite syrah, le tanat, etc., on peut faire des cuvées de concentration et donc de garde. Il y a aussi des blancs, le Mozac donne des vins friands, mais aussi peut donner effectivement des vins de garde. Il y a
des vins secs, Philippe, ou ils sont un peu doux parfois.
Il y a des vins moelleux à Gaillac. Et il y a aussi même du vin de voile, certains bons exemples.
Il y a tout à Gaillac, en fait. On se demande pourquoi aller voir ailleurs dans un autre vignoble, il y a tout à Gaillac.
Il y a des vins effervescents aussi à Gaillac. Oui.
Les Gaillac à l'origine, Berland, c'est notamment. Des bulles et c'est ça, le doux.
Exactement. Oui. Vous êtes la sixième génération, Nicolas, la septième, elle est prête. Là, vous avez bossé un peu ou pas?
Il y en a trois, mais ils ont neuf et demi, quatre et demi et deux et demi. Ouais. Il y en a deux qui sont à la cave là en ce moment. Là.
Vous les faites bosser, là, c'est très bien, avec modération tout ça.
À partir de deux ans, ils commencent à vendanger chez nous.
Et alors, vous avez cédé aussi à la mode des rosés, parce qu'on a parlé de différentes couleurs avec vous et avec Philippe. Vous avez aussi un peu de rosé?
Je fais un peu de rosé, mais je vais être complètement honnête avec vous. C'est pas le vin que je préfère moi personnellement.
Pourquoi il est mauvais, votre rosé?
Non, il est bon, mais en tant que buveur, en tant que dégustateur, j'ai toujours du mal avec les rosés. Je pense que donc je fais des bons rosés, mais je suis pas à la mode du rosé, voilà.
Oui, c'est ça. Est-ce qu'il est très pâle comme tout le monde, ou alors au contraire il a un peu de tenue, genre Tavel par exemple?
Alors entre guillemets, on nous demande d'avoir des rosés pâles, mais ce qui m'intéresse là, c'est que j'ai des rosés qui se gardent.
Ouais.
Donc, c'est pas des rosés qui sont fanés au bout de trois mois.
Bravo, ils ont une vraie personnalité. Merci beaucoup, Nicolas Hérissou, et bravo pour cette magnifique aventure au pays de Bacchus. On se retrouve dans un instant au bar à vin du caviste Nicolas à Paris, place de la Madeleine, pour cette émission délocalisée avec le Vino Quiz pour gagner le livre Le tourisme et spiritueux en France et dans le monde aux éditions Erol.
Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h.
Retour à la cave Nicolas à Paris. Nous sommes toujours place de la Madeleine pour cette émission en public et délocalisée. D'ailleurs, vous qui nous écoutez chaque week-end, n'hésitez pas à nous contacter sur notre page Facebook Invino pour nous indiquer vos vignerons favoris, chouchous. On va les contacter. Et s'ils sont vraiment très bons, on va les inviter à la radio directement. Alors, on retrouve Philippe Forbach et puis le Vino Quiz. Donc, ça, c'est un moment solennel, Philippe.
Oui, solennel. Et en même temps, il faut reprendre des bonnes habitudes dès la rentrée. Oui. Alors, je vous en rappelle le principe, si vous avez oublié pendant les vacances. Chaque semaine, on vous pose une question sur le vin et le vainqueur gagne un beau cadeau, bien entendu. Le livre Œnotourisme et spiritueux en France et dans le monde aux éditions Erol. Concentrez-vous un petit peu. Voici la question de ce week-end. Quel est le second métier de Nicolas Hérissou, propriétaire du domaine du Moulin Hérissou à Gaillac? Réponse A, dompteur de lions, mesdames et messieurs. Réponse B, fauconnier. Réponse C, pêcheur, devant l'éternel, bien entendu.
Bien sûr, voilà. bien sûr.
Pour répondre et gagner, on vous le souhaite, à ce livre « Œnotourisme et spiritueux en France et dans le monde » aux éditions Erol. Rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.tv, rubrique Invino, ou rubrique Vino Quiz, si vous voulez. Le gagnant sera d'ailleurs tiré au sort parmi les bonnes réponses.
Merci beaucoup, Philippe Forbach. Patrick Giraud, bonjour. Vous êtes dompteur de Lyon, vous aussi?
Du tout.
Bah, faut y penser, quoi.
Vigneron.
Bon, allez, vous êtes vigneron, donc au cœur du Sancerrois. Alors, racontez-nous, c'est une affaire de famille. Vous êtes vigneron depuis plein de générations ou c'est tout récent?
Eh bien, écoutez, moi, je suis vigneron depuis... je suis la huitième génération. Wow. Je me suis installé avec mon père en 1984. J'ai donc 56 ans aujourd'hui, donc j'avais 20 ans. Et je travaille aujourd'hui avec mon fils, Adrien.
Et c'est pas trop dur pour lui, là, Adrien? Il vous supporte? Tout se passe bien ou pas?
Oh, ben, conflit de génération, c'est pas toujours évident, mais il fait sa place.
C'est constructif.
Oui, tout à fait, voilà. Tout à fait. C'est enrichissant de pouvoir échanger aujourd'hui avec des nouvelles générations, des nouvelles technologies, que ce soit la vigne à la cave, la technique, c'est tout évolue aujourd'hui avec la haute valeur environnementale, le côté bio. Ouais,
c'est plus la vigne de nos grands-parents. Alors un mot peut-être sur votre domaine, Patrick, vous êtes basé où exactement? Oui. Parce que le Sancerrois, c'est grand.
Oui, c'est grand. Nous sommes à Sancerre, il y a 3000 hectares, hein, 2400 hectares plantés en Sauvignon et 600 hectares plantés en Pinot Noir. Donc moi, je suis situé à Buée, au cœur de Buée, au lieu dit Bois de l'Abbaye. J'exploite une douzaine d'hectares de vignes.
D'accord.
9 hectares et demi en Sauvignon.
Et vous produisez les trois couleurs, Patrick ?
Oui, blanc, rouge et rosé.
D'accord.
Tout à fait. Tout à fait. Et nous exportons entre 70 et 80% de nos produits.
Oui, c'est important ça. Vous produisez que des Sancerre ou vous avez quand même d'autres appellations périphériques hein, c'est,
Non, je ne fais que du Sancerre, tout à fait.
C'est un
une
choix.
Exploitation familiale et c'est un choix. Et puis, ça fait du travail déjà. Et ouais. Voilà, on aurait pu faire Pouilly, même tout Salon, mais non, on est resté à Sancerre.
Philippe Orbrac, le Sancerre à Paris a été très, très à la mode, un peu comme le Brouillé à une époque. C'est toujours le cas aujourd'hui ou alors c'est un peu tombé ?
Non, ça reste le cas. Ça reste surtout la référence. Hein. Notre ami vigneron Patrick Giraud nous disait 80% de l'export. C'est dire la notoriété de cette appellation de
par incroyable.
C'est juste incroyable. Donc, d'ailleurs, ce sujet, est-ce que l'export en ce moment
n'est pas
trop compliqué,
Patrick, oui.
Dans vos distributeurs à l'étranger ?
Moi, je travaille donc principalement États-Unis, Canada, Allemagne, Royaume-Uni, les pays scandinaves, Belgique, le Benelux et Danemark.
D'accord,
le Danemark.
C'est pas mal. Mais le marché est un peu faible en activité en ce moment ?
Ah non, nous, on a malgré la Covid, mars, avril, mai, nous avons très, très bien travaillé à l'export. En France, malheureusement, on a bien travaillé également avec les particuliers en France une fois que le confinement était terminé. Et nous avons beaucoup travaillé avec les cavistes au moment du confinement. Par contre, malheureusement, la restauration, là, on a pris une calotte, une claque de 95%
ouais,
moins.
C'est ça, quoi.
C'est normal. Hein,
combien
ça,
de bouteilles vous produisez en moyenne hein, chaque
année,
Patrick ?
Nous, on produit, une année normale, on produit entre 80 et 100 000 bouteilles.
Il faut les vendre déjà. Hein, il faut les vendre déjà.
Oui, il faut les vendre, mais vous savez, on se déplace, on va voir nos clients. Moi, on a pas mal de restaurants, brasseries, restaurants sur Paris. Bon, bah là, moi, depuis le mois de mars, j'ai promis les pieds à Paris. C'est désolant, mais on aimerait bien y retourner, mais ça peine à repartir.
Ça va repartir, Patrick. Oui,
à la rentrée, ça va repartir. Tout à fait, je le souhaite, hein, parce que nos amis restaurateurs ont besoin de travailler. Et Paris, c'est la vitrine pour nous. Les clients, les importateurs viennent d'abord à Paris. Et c'est comme ça moi j'ai trouvé mes importateurs, c'est parce qu'ils ont dégusté mes vins à Paris, dans les restaurants à Paris.
Alors dites-nous, parce que le Sancerre, donc vous avez deux cépages dont vous nous rappeliez tout à l'heure, ces cépages on les trouve aux quatre coins du monde, avec des concurrents, notamment néo-zélandais, qu'on peut imaginer de qualité. Là, comment vous faites pour survivre ? Parce que Philippe nous expliquait qu'il y avait une autorité qui était mondiale, ce qui est vrai, ce qui est formidable, et vous l'entretenez, vous faites comme tous les vignerons, vous bougez les fesses pour aller continuer à promouvoir matin, midi et soir vos magnifiques vins aux quatre coins du monde ?
Il faut, de toute manière, il faut pas s'endormir, hein, faut pas rester au chais. Je vais beaucoup aux vignes. Hein, je quitte mes vignes que pour poser un petit peu mon corps et l'âme que de temps en temps, mais je suis très, très souvent aux vignes. Et à la cave, c'est mon fils maintenant qui a pris la relève. Donc, mais autrement,
Adrien, c'est Adrien.
Oui, Adrien, tout à fait. Mais autrement, on fait des dégustations hein, des vins. Alors, qu'on appelait il y a quelques décennies les vins du Nouveau Monde, mais c'est plus le Nouveau Monde. Hein. Ils sont là, ils sont présents, ils sont avec nous. Il faut faire avec. Moi, j'ai eu des vignerons néo-zélandais et, d'Afrique du Sud qui sont venus déguster mes vins. Je les ai emmenés voir mes vignes. Ils sont revenus au moment des vinifications et parce qu'ils voudraient.
Vous les chouchoutez, quoi. Hein.
Voilà, mais ils voudraient un petit peu savoir quel est notre secret pour faire ce Sauvignon de Sancerre.
Il ne faut pas tout leur dire, Patrick.
Mais il n'y a rien à dire parce que, de toute manière, c'est notre terroir. On a un terroir unique à Sancerre, unique dans le monde, et personne ne peut nous copier. C'est ça qui fait notre force.
Philippe Orbrac, alors, avec un bon Sancerre rouge et blanc, on verra après pour le rosé, qu'est-ce qu'on peut imaginer comme type de gastronomie, Philippe ?
Alors, pour le blanc, les poissons fumés, c'est merveilleux. Les fromages, il ne faut pas oublier que dans l'appellation Sancerre, il y a Chavignol qui est une des rares communes à avoir droit à une double appellation, vin et produits laitiers, fromage en l'occurrence. Ça fonctionne très bien également. Moi, j'ai eu l'occasion de goûter des vieux Sancerre blancs, hein, parce que sur les rouges.
Vieux, ça veut dire quoi ? Plus de 10 ans, Philippe ?
Oui, plus de 10 ans. Et là, pour le coup, on gagne en largeur aromatique et en ampleur gustative. Et là, on peut aller sur des viandes blanches, sur des volailles, sans aucun souci. Sur les escargots, sur les huîtres, bien entendu, enfin tous les produits de la mer. Mmh. Pas oublier qu'il y a un sol qui est le reflet, effectivement, d'une partie océanique de certaines époques, dans lequel on a des perruches, des silex, du calcaire, etc.
Il y a beaucoup beaucoup de choses.
Il y a plein de choses
intéressantes que l'on
peut traduire ensuite en gastronomie.
Philippe parle des vins blancs avec un vrai potentiel de garde. Vous en pensez quoi? Vous partagez également l'avis? Parce qu'on a l'impression qu'on s'en sert, ça se déguste entre 2 et 5 ans, mais finalement, ça mérite d'attendre, selon
ça
Philippe.
Ça peut attendre.
Oui, bien sûr. Comme disait M. Forbrack, un Sancerre-Blanc, par exemple, vous prenez un 89, un 90, on était vraiment sur une minéralité très ouverte, très épanouie, un vin qui a 30 ans.
Et ça tient toujours, ça tient toujours.
Ah, ça tient toujours. Il y a une belle fraîcheur, si on a une belle acidité. Alors aujourd'hui, on récolte des raisins avec une acidité plus basse, parce que faut pas se cacher la face, hein. Il y a le réchauffement qui est là.
Critère, on va vendre 64 degrés à Sancerre cet été, c'est beaucoup quand même. Hein.
C'est énorme.
Ça, c'est en Fahrenheit.
Mais vous voyez, le banc des vendanges à Sancerre, c'est aujourd'hui. Là, j'ai des collègues qui commencent à vendanger. Moi, je commence en tout début de semaine prochaine. Mais mon père, en 76, a commencé le 6 septembre.
Nous sommes début septembre, effectivement, bien sûr.
Voilà.
Patrick,
on
parle de vin rouge également à Sancerre. Il est comment? Donc, il pinote, il est sympa. Philippe Orbach, vous en pensez quoi?
Il pinote, heureusement, parce que c'est du pinot noir, donc ça pinote bien entendu. Alors, il y a plusieurs styles de Sancerre rouge. Il y avait même une époque où c'était plutôt des vins légers, tendres, aromatiques et friands, et franchement très agréables pour ça. Il y a une tendance aujourd'hui, alors je ne sais pas ce que fait M. Giraud, mais je n'ai pas goûté vos rouges récemment, mais on a tendance aujourd'hui à avoir des rouges un peu plus structurés. Alors c'est aussi l'effet du climat, hein, bien entendu, et cette évolution des températures, mais il y a peut-être une volonté aussi aujourd'hui de faire des rouges avec un peu plus de densité, un peu plus de charnu, voire légèrement plus de garde. Et quand on goûte aujourd'hui des rouges de 5-6 ans, on se dit qu'ils sont encore extrêmement jeunes, les 2015 ou les 2016 par exemple aujourd'hui, et qui peuvent franchement attendre encore quelques années avant d'être complètement épanouis.
Merci beaucoup en tout cas Patrick Giraud, merci également à vous Nicolas Irissou, Philippe Forbrack évidemment, ainsi qu'aux millions d'amateurs de vin qui nous écoutent chaque week-end. Un clin d'œil bien particulier à Angéline qui a préparé cette émission, ainsi qu'à Sébastien pour la partie technique qu'on n'avait pas revue tous les deux depuis notre opération à Saint-Tropez, mon cher Philippe Forbrack. Fin de ce numéro de InVino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr, invinoradio.tv ou notre page Facebook InVino. On se retrouve demain à 12h30 pour une nouvelle émission, toujours en public et délocalisée chez Nicolas, le caviste fondé en 1822. On parlera demain d'Alsace et de la vallée du Rhône. Maintenant, excellent déjeuner. Restez fidèles à Sud Radio. Encouragez et soutenez tous les vignerons français et surtout respectez la plus grande démodération.
Sud Radio InVino.